Courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Sonessence.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Caladma Radio. Bienvenue dans notre émission Courant Porteur. Aujourd'hui, nous avons une particularité à la technique et qui nous rejoint également sur la production de l'émission. Benjamin Jaïr, grand permaculteur qui fait partie de notre gouvernance et qui va nous accompagner aujourd'hui et sur les prochaines émissions. Bonjour Benjamin.
Bonjour Elisabeth.
Merci de nous écouter aujourd'hui. Au sommaire de notre émission, nous recevons dans cette première partie qui est destinée à l'initiative de territoire, on reçoit Lucille Méjean. Bonjour Lucille.
Bonjour Elisabeth.
Elle nous parlera de son projet. Vous allez voir, on va parler de pâtisserie. Et dans la deuxième partie de l'émission, sur la rubrique de fond, on reçoit Monsieur Olivier Frérot. Bonjour Olivier.
Bonjour Elisabeth.
Olivier est philosophe et il nous parlera de quelques-uns de ses derniers livres et d'une question qui nous anime tous. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment dans notre société? Mais ça, ce sera pour la deuxième partie. Lucille, tu es prête?
Je suis prête.
Eh bien, on démarre. Alors Lucille, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel a été ton parcours?
Eh bien, j'ai un parcours plutôt classique, en tout cas dans les débuts. Disons qu'après le lycée, je ne savais pas vraiment quoi faire. Donc je m'oriente dans un domaine plutôt large et je me rends dans une école de commerce. Et je me dis que je vais pouvoir y découvrir pas mal de domaines différents. Et je découvre en effet la communication notamment et l'entrepreneuriat, deux domaines qui sortent un peu du lot par rapport aux autres.
C'était quoi comme diplôme?
C'était donc un diplôme d'école de commerce en bac plus 5 et du coup je me suis spécialisée et j'ai fait 2 ans de master en communication digitale.
D'accord, effectivement, ouais. Ok, je comprends mieux le lien entrepreneuriat-communication.
Exactement. Donc je choisis la communication parce que ça me paraît être un choix plus terre à terre et plus raisonné, en tout cas à ce moment-là de ma vie. Et donc je commence à bosser là-dedans. Et à côté de ça, dans mon perso, j'ai toujours été un peu passionnée de pâtisserie. Et je voulais me lancer un challenge. Et donc je décide de passer mon CAP en même temps que le boulot. Donc en autodidacte et en autonomie complète.
En candidat libre, comme on dit.
Exactement, en candidat libre.
Ah, incroyable.
Et donc je réussis ça. Et je mets un peu de côté. Et en fait, je pense que je me suis toujours dit que ça me servirait peut-être un jour. Et puis de toute façon, je le faisais plutôt pour le challenge au début. Donc voilà, j'étais contente de l'avoir réussi.
Déjà l'esprit entrepreneurial.
Exactement. Et donc, je continue à bosser dans la com, mais toujours avec ce lien de l'entrepreneuriat derrière, parce que j'ai toujours bossé dans des petites, voire très petites boîtes. J'ai toujours été entourée d'entrepreneurs. J'ai bossé qu'avec des startups, etc. Des startupeurs.
Du coup, j'avais effectivement une question. C'est que tu as commencé à travailler dans la com, mais dans quel type de com?
En fait, c'était...
Quel type de boîte?
Des petites boîtes. Donc, ma première boîte, c'était dans les cosmétiques biologiques. Et après, en fait, j'ai fait 2 boîtes. Et la deuxième, c'était dans les compléments alimentaires.
Donc, tu étais en interne?
Exactement. J'ai toujours été en interne. Ouais, je ne voulais pas travailler en agence. Ça ne m'intéressait pas. Je préférais développer et être libre dans l'entreprise de faire plein de choses différentes.
Super. Et le CAP, du coup, c'était des cours du soir? C'était comment?
Non, c'était... en fait, j'avais pas de cours. J'ai pris mon ordi, j'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai pris le programme du CAP et j'ai révisé comme ça.
OK.
Et il y a eu le confinement. Et donc, j'en ai profité pour avoir un peu plus de temps pour pâtisser.
Eh bien oui.
Voilà.
On ne pratique pas, on pâtisse.
Exactement.
Génial. Et du coup, est-ce que tu as eu un point de bascule, un point de bifurcation ?
Eh bien, en fait, j'ai quitté ma première boîte parce qu'elle a fermé. Et du coup, j'ai décidé de trouver un autre boulot dans la com. Et j'arrive dans cette entreprise-là où je ne me sens pas trop à ma place. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas alignée avec mes valeurs. Et je rentre le soir et je me dis, j'ai rien fait de ma journée. En tout cas, rien qui m'apportait. Et donc, le point de bascule, en fait, ça a été que je décide de quitter cette entreprise. Et c'est un peu là que tout commence et que je me dis que ça serait peut-être le temps de construire quelque chose
à moi
et quelque chose qui m'apporte plus.
Super. Est-ce qu'il y a un rêve à l'origine de ton engagement ?
Eh bien, le rêve, en fait, c'est, je pense, le tout premier rêve, c'est de retrouver une vie professionnelle qui m'inspire et surtout de retrouver le plaisir de me lever le matin et d'être heureuse d'aller bosser et de construire quelque chose aligné avec mes valeurs et qui me ressemble.
Oui, mais on ne fait pas de la pâtisserie comme ça.
Oui, mais en fait, y a deux choses qui se mêlent. C'est l'envie de partager. Et c'est, je pense, comme ça qu'est arrivée aussi la pâtisserie. Et aussi l'envie de construire quelque chose, un lieu qui rassemble. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé la symbiose parfaite, on va dire, pour l'instant.
Je crois qu'on est sur une parfaite transition.
Courant porteur.
Donc, parfaite transition. Et j'ai encore un peu le chat dans la gorge, mais tant pis, on va faire avec. Puisque aujourd'hui, tu as ton lieu et tu pâtisses.
Exactement. J'ai repris une pâtisserie salon de thé à Polymio Mont d'Or. Ça fait 3 mois que j'ai ouvert.
Ça s'appelle Chez Lucille.
Exactement, tout simplement, Chez Lucille. C'est un endroit où je propose des pâtisseries 100% artisanales, moins sucrées, sans additifs, des choses saines avec lesquelles on peut quand même se faire plaisir. C'est en fait un lieu de rencontre où dans un village où les commerces de proximité sont importants et c'est un lieu de rencontre qui est logé dans un petit village où c'est difficile pour les petits commerces de proximité de s'implanter. Parce que c'est des petits villages et ce sont les habitants qui font vivre les petits commerces.
Et toi, t'amènes le côté convivial.
Exactement.
Le petit moment de plaisir.
C'est ça. Je vois les gens qui sont heureux de venir prendre un café, discuter, prendre le temps de déguster une pâtisserie. Et je vois que l'échange et avoir créé ce lieu d'échange, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Et j'ai, je pense, trouvé le parfait mélange entre ma passion pour la pâtisserie et l'envie de rassembler grâce à ce lieu convivial.
C'est drôle parce que même dans tes mots, en fait, on entend, tu vois, tu parles de mélanger, tu parles de...
Oui, c'est le champ lexical.
Le champ lexical, c'est full pâtisserie.
Exactement.
Est-ce qu'on mange tes mots.
Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous donner peut-être l'eau à la bouche, quel type de pâtisserie ou un exemple
On peut retrouver beaucoup de choses, des petits déjeuners comme donc des petites brioches, etc. Mais des goûters aussi pour les enfants. Du flan pâtissier, c'est le best-seller, venez bien sûr le goûter. Et puis après, des pâtisseries un peu plus travaillées pour le dimanche et des tartes à foison.
Donc tu peux aussi donner libre cours à ta créativité.
Exactement, et c'est ça que j'aime, c'est d'arriver et en fait de me dire « Ah bah aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de faire une tarte au citron, ben je fais pas de tarte au citron et je fais complètement autre chose. » Et c'est surtout le pouvoir d'être libre, d'arriver le matin et vraiment de proposer ce que je veux.
Super. Tu pâtisses où ?
Je pâtisse dans mon petit labo et dans cette boutique. C'est au 94 chemin du Cruy à Polymieux-Mont-d'Or. C'est dans une montée pour accéder au Mont-d'Or. Donc vélo et randonneur, n'hésitez pas à venir me retrouver là-bas.
Tu fais bien la pub, hein.
C'est mon métier de base.
C'est vrai, en plus. Un bon mix. Et tu es ouverte tous les jours ?
Je suis ouverte du mercredi au dimanche midi.
Mercredi au dimanche midi. Bon, ça laisse une plage horaire
exactement.
Assez vaste. Ben écoute, avec grand plaisir de venir à Polémio Mont-d'Or, chez Lucille, dans ta super pâtisserie pour goûter tes gâteaux. Deuxième partie de ton interview sur ton projet, et puis peut-être on élargit un peu plus. Qu'est-ce qui t'anime dans faire partie de l'écosystème local, de contribuer finalement ? Tu l'as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce qui fait sens pour toi ?
En fait, j'aime l'idée de créer un lieu de vie et un lieu de partage où les gens créent du lien. Et j'aime le fait aussi de valoriser l'artisanat et de valoriser le savoir-faire artisanal. Et c'est ça qui m'anime au quotidien, c'est vraiment l'échange et le savoir-faire manuel et la satisfaction d'arriver et de créer de toute pièce quelque chose qu'on va vendre.
Avec en plus, comme tu l'as dit, des produits locaux.
Exactement, j'essaye d'utiliser des matières premières locales. Alors ça fait 3 mois que j'ai ouvert, donc... ça va être de plus en plus à travailler. Mais voilà, j'utilise des fruits de saison, etc. Et c'est un enjeu important d'ailleurs du projet d'utiliser des matières premières qui font sens aussi avec les valeurs que je prône.
Tu as déjà trouvé un moulin pour des farines ou des farines plus particulières ? Le sans gluten ou je sais pas.
J'ai pas encore trouvé tout ce que je voulais en local, mais c'est dans les box.
Dans les tuyaux.
Parce qu'en fait ça demande du temps et pour l'instant le temps je cours un peu après.
En même temps ce que tu as fait c'est immense.
Oui, bah j'ai du mal à prendre le recul nécessaire là. Et de me dire tout le chemin parcouru. Mais c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon et qu'on n'est que
dans l'opérationnel,
c'est difficile de prendre le recul et le temps nécessaire pour ajuster tout ce qui doit être ajusté.
Et quel est ton lien avec Sonnaissance, du coup ?
Eh bien, j'ai été accompagnée par Sonnaissance. J'ai commencé...
Par Ludovic.
Exactement, par Ludovic. C'était fin 2024, je crois que j'ai commencé à être accompagnée par Sonnaissance.
Ça s'est bien passé ?
Ça s'est super bien passé. Ça a mis en lumière tous les points importants et les valeurs auxquelles je vais me raccrocher quand je construisais le projet. Je me souviens qu'on avait parlé de mes 3 valeurs essentielles, la bienveillance, la joie et la liberté. Et j'avoue que ces valeurs ne me quittent plus et que j'essaye de les chérir au quotidien pour avancer alignée avec ce que je suis.
Magnifique. Peut-être que tu peux toucher deux mots également sur la personnalité d'entrepreneur. Parce que tu n'es pas forcément la personne la plus extravertie qui soit.
Ah bon?
Et en même temps, voilà, t'es ouvert et tu reçois du monde et ouais, tu crées un lieu de partage et de convivialité. Je trouve ça exceptionnel.
C'est vrai que j'ai, on va dire, deux personnalités. Un côté hyper introverti, surtout quand je connais pas les gens. Et finalement, un côté très clown quand je me sens à l'aise.
Génial.
Et pour le coup, j'avais un peu peur de ce lien avec... qu'un petit commerce peut créer avec les clients. Et en fait, j'ai été agréablement surprise de moi, parce que ça se passe hyper bien. Les échanges sont hyper fluides. Je sais tenir les conversations. Et en fait, je me rappelle de tout ce que les clients me disent. Et donc, c'est hyper simple pour moi de créer le lien avec les clients.
C'est fou comme être connecté... À la fois à tes valeurs, à quelque chose qui te plaît et de l'incarner, waouh!
Exactement,
et du
ouais.
Du coup, full connecté, quoi.
Eh oui, c'est ça.
Génial. Merci beaucoup. Allez, une dernière question. On se projette un peu dans l'avenir. On est dans 5 ans. Comment ça se passe pour toi, ton projet et ton équilibre de vie pro, perso, le fameux?
Alors honnêtement, dans 5 ans, j'en ai aucune idée. Je sais même pas ce que je vais faire demain.
Des gâteaux, s'il te plaît.
Exactement. En fait, je sais que ce projet-là, c'est un tremplin pour autre chose, je pense, de plus grand, mais je ne sais pas encore quoi. Mais c'est un tremplin hyper important qui me permet de prendre confiance en moi, d'apprendre plein de choses et d'apprendre à gérer une boîte, finalement. Et tout ce que je me souhaite dans 5 ans, c'est effectivement de trouver ce fameux équilibre vie pro-vie perso, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas encore là. Après, bon, c'est normal, ça fait 3 mois que j'ai ouvert, donc ça va mettre un peu de temps à arriver.
C'est normal.
Mais voilà, ouais, dans 5 ans, je me souhaite en tout cas d'être encore alignée avec mes valeurs et peut-être que ça sera dans ce salon de thé-là ou peut-être ailleurs.
Mmh. Je me rappelle quand on a fait la structure du coup du gâteau et de la part de gâteau.
Oui.
On comptait les œufs, le morceau de sucre.
Oui, la fameuse formule Excel des matières premières.
Et puis peut-être aussi une anecdote dont je me souviens, c'est que la pâtisserie où tu es, c'est la pâtisserie de quelqu'un que connaissait Ludo.
Oui.
Voilà, c'est aussi ça aussi, l'écosystème local.
Tout à fait.
Le lien.
Il m'a donné ce contact. J'ai fait un stage chez cette dame. Et finalement, maintenant, c'est moi qui suis à sa place.
Et voilà. C'est une belle histoire, ça aussi. Merci beaucoup, Lucille.
Merci à toi.
À tout bientôt.
À bientôt.
Courant Porteur.
Initiative et résilience d'un territoire. Et nous voilà dans la deuxième partie de l'émission. Et on te retrouve, Olivier, donc pour les auditeurs, Olivier Frérot, qui nous rejoint aujourd'hui. En première partie, on a entendu Lucille et son témoignage d'entrepreneur dans la pâtisserie. Et avec toi, Olivier, on avait envie de parler d'un sujet qui te touche particulièrement, qui est qu'est-ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Mais peut-être que tu avais envie de rebondir sur le témoignage de Lucille.
Ben oui, parce que Lucille, son cheminement, il est assez, je dirais, paradigmatique de ce basculement, voilà, de ce basculement que les individus et la société vivent aujourd'hui. Voilà. de ces tipping points, comme on dit en anglais.
Tipping point.
Point de bascule. Lucille, elle a commencé une école de commerce, elle a été diplômée, elle a commencé dans la communication, quoi. Typique, quoi. Et puis, non, c'était, comme elle dit, c'était pas aligné. Hein. Elle devient pâtissière et entrepreneuse. Bon, c'est des moments difficiles, parce que ce qu'elle fait, c'est magnifique. Hein. Tu l'as beaucoup dit. Beaucoup d'entre nous sommes en recherche de ces basculements-là pour retrouver du sens profond, quoi. Et moi, j'essaie décidément de comprendre de façon plus intellectuelle, on va dire, ce qui se passe dans notre société, qui nous traverse tous. C'est-à-dire à la fois des effondrements, des choses qui marchaient mais qui ne marchent plus, qui avaient de la bonne énergie mais qui aujourd'hui deviennent négatives. C'était positif et ça devient négatif. Ça se retourne contre nous. Ça nous a du bien, maintenant ça nous fait du mal. Et puis des choses qui émergent dans les marges. Et c'est là qu'il faut être, quoi. Parce que c'est là que se trouve la création, c'est là que se trouve la joie. J'essaie de penser ça à toutes les échelles, à l'échelle des personnes, des individus. Donc là, je donne l'exemple de Lucille, ou même de moi, hein, qui suis passé de fonctionnaire, où j'ai aimé ces boulots-là, mais qui aujourd'hui sont devenus, non seulement pour une part inintéressants, mais aussi même contre-productifs, du côté de la création et de l'entrepreneuriat. Et puis au niveau sociétal, hein, de toute la société.
Oui, alors Olivier, vous le retrouverez dans la prochaine émission également, où il vous expliquera plus avant son parcours. Vous pourrez retrouver tous ces éléments-là. Mais Olivier a écrit six livres, dont les deux derniers là, que j'ai en main, ou presque les deux derniers. L'édition, je trouve qu'elle porte très bien son nom, c'est l'édition « Comprendre la société ». Et j'ai deux livres devant moi. Le premier s'appelle « Contribuer à l'émergence d'une société neuve et vive, des chemins à investir ». Et il a donné lieu, par la suite, à un ouvrage peut-être plus abouti, plus complet, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas, qui est la forme du récit de cette nouvelle dynamique de société. Il s'appelle « Comprendre la nouvelle dynamique de l'humanité, naissance d'un récit, la matrice des civilisations ». Alors le sujet sur lequel je voulais qu'on se penche là tout de suite avec toi, c'est quelque chose qui t'anime toi depuis un bon moment déjà, mais qui anime a priori beaucoup de monde, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de vivre en ce moment à toutes les échelles, et donc ce serait un changement de civilisation.
Oui voilà, tu as dit les grands mots. Alors donc mon éditeur c'est Chronique Sociale. Et la collection, c'est Comprendre la société. Chronique Sociale, qui est un petit éditeur lyonnais, mais qui a une centaine d'années d'existence.
Merci pour la précision.
Et qui a eu la générosité de m'accueillir en 2015, la première fois. C'est ça qu'effectivement qui m'importe. C'est qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, comment l'interpréter. Alors moi, dans mes différentes histoires personnelles, j'ai vécu ce que je dis de façon un peu violente. L'effondrement intellectuel du corps des ponts et chaussées. Alors, ça ne parlera peut-être pas à grand monde, cette affaire-là, mais le corps des ponts et chaussées, qui a 300 ans d'existence, hein, qui est né en 1716 et qui a fait beaucoup de bien dans le cadre d'une civilisation moderne techno-scientifique. Les grands scientifiques et mathématiciens du 18e, les grands ingénieurs du 19e, les grands administrateurs du 20e, ça, c'est ce que les gens peuvent connaître un peu plus, ça a été très, très productif, ça. Mais au tournant des années 2000, bon, j'ai 65 ans aujourd'hui, donc j'ai fait l'école des ponts il y a peut-être une quarantaine d'années. Ça marchait bien à l'époque, mais j'ai vécu quelque part son vrillement. Hein. C'est-à-dire que le bien commun des seigneurs des ponts et chaussées, qui était de faire des ponts et des chaussées pour que ça circule, quoi, ça devenait presque un objectif. Hein, les personnes qui sont toujours d'ailleurs pour ceux qui sont encore dans ce corps, avaient une vie de plus en plus clanique. Qui était de moins en moins ouvert aux autres, qui était plus de cap, parce que c'est la culture générale qui s'est développée dans notre société, d'accaparement, de prendre pour soi. Et donc au niveau intellectuel aussi, d'avoir beaucoup moins de générosité, de créativité. Au tournant des années 2000, j'ai vraiment vécu ça à l'intérieur même du corps.
Le quant à soi, comme on dit.
Le quant à soi, tu vois, l'individualisme, ou le clanisme, quoi. Et ce que j'ai vu au corps des ponts, en fait, je l'ai vu partout dans les autres institutions publiques, alors de la société française, mais globalement dans la société occidentale. Et comme l'Occident s'est répandu sur le monde depuis quelques temps, ça touche, ça gangrène tout le monde, cette affaire-là. Donc c'est ça qui est même... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se perd, quoi? Comment une civilisation s'épuise? Parce que ça démarre sur des très belles valeurs, les valeurs d'une vision rationnelle du réel. Au 17e, au 18e, c'est là qu'il faut être, hein, c'est découvrir les équations qui régissent
le monde.
Voilà, qui régissent le monde. Alors, au moins en partie, c'est sûr, mais la question, c'est que c'est devenu en totalité.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a cherché à comprendre le monde et on a rationalisé. On a fait des équations, on a fait des concepts, des théories. Et là, ce que tu constates, ce que tu exprimes, c'est que ça a pris trop de place.
Ben, c'est qu'on oublie ce qui ne rentrait pas dans les équations.
Voilà.
Parce que ça n'existe plus, ce qui ne rentre pas dans les algorithmes aujourd'hui.
Ça existe toujours, mais en tout cas, ce n'est pas reconnu comme ayant de la valeur potentiellement.
Mais c'est pire que ça. Non, je suis sûr que ça n'existe pas dans un point de vue philosophique, d'un point de vue paradigmatique.
Ok. Enfin, tu le sais mieux que moi.
Non, mais au niveau intellectuel, j'entends. Hein, c'est pas effectivement. Ben, on a encore la matière est toujours là. Hein, mais quelque part, elle est niée. Enfin, quand on part vraiment dans le numérique et dans le virtuel au sens numérique, la matière disparaît. Tu vois? Or, effectivement, la matière est là. Et c'est ce rappel du réel qui revient en pleine figure. Et c'est pour ça que cette promesse de maîtriser le réel par les mathématiques échoue. Mmh. Vraiment. Mais quand on écoute aussi les grands penseurs de ces temps-là, il y avait aussi cette espérance qu'on allait, enfin, tout allait quand même quelque part partir dans cette sphère intellectuelle, hein, pour dire.
C'était le must.
Il est archétypal de ça, tu vois. C'est pour ça qu'il est très intéressant. Je pose pas de questions morales, mais ça, il est vraiment totalement. Il est la continuité même. Il est la réalisation du rêve galiléen. J'ai tendance à dire, tu vois, pour exagérer à peine les choses.
C'était quoi le rêve galiléen?
Ben, c'est que le réel écrit en langage mathématique.
Et, okay.
Tu vois, c'est ça. Et donc tout est chiffre, tout est technologie. Et ce qui ne rentre pas là-dedans, ça n'existe pas. Je force le trait pour juste nous faire réfléchir à ça.
Oui.
Or, comme je suis un être vivant de chair et de sang, et que je me dis, mais au nom d'une pipe, qu'est-ce qui m'émeut?
0, 1.
Ben, pas vraiment, 1, justement. 0. Ça marche plus. Alors, j'aime bien encore bien les équations. Elles sont belles, les équations. Moi, je les ai beaucoup aimées, j'aime aussi. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui m'émeut, c'est mes petites plantes qui poussent dans mon jardin, quoi. Les fleurs, les fruits. Bon, bref. En tout cas, ce que je pense, c'est que ce monde qui a été un monde passionnant que de la modernité, il a plus de jus. Et il se retourne. Maintenant, il nous fait du mal, globalement. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on n'est quand même pas très bien. Hein. On n'est pas très bien et ça n'a pas l'air de s'améliorer. Par contre, si je vais du côté de l'attention à la vie, dont je suis partie prenante, hein, je suis là, quelque chose qui renaît, qui se relance, qui se réjouit. Tu vois. Bon, donc, c'est ça que j'essaie un peu d'intellectualiser. Et dans les événements qui surgissent dans le monde, de les penser de ces deux côtés. D'un côté, qu'est-ce que ça dit de l'effondrement d'une situation, et qu'est-ce que ça dit de la naissance d'une nouvelle. Et entre les deux, c'est pas tellement compatible, quoi. C'est même contradictoire. C'est pour ça que c'est difficile à penser. Parce qu'on n'aime pas penser la contradiction comme ça, c'est difficile.
Oui, je préférais trouver un équilibre.
Eh bien, il y a des moments dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des déséquilibres qui sont plus forts que les équilibres. Et bien sûr, ça va redevenir un équilibre, mais dans quelques temps. Hein. Mais globalement, aujourd'hui, on est dans un point de bascule global. Enfin, c'est une façon d'interpréter les choses. Hein. Bien sûr, beaucoup de gens le disent. C'est comme ça, c'est pas moi qui veux. Hein. J'essaie de comprendre ce qui se passe et de retrouver quelques boussoles intellectuelles pour me repérer là-dedans. Et d'être moins perdu. Et donc, de moins développer de l'amertume, du ressentiment. Et donc, de moins...
De l'impuissance.
Voilà. Et donc, de moins être apte soit de donner de la violence, soit de recevoir de la violence. Mm. La violence, elle se développe dans ces moments-là. C'est pour ça qu'elle se développe, effectivement.
Oui, il y a un gros repli sur soi et de la haine de l'autre. Mm. En ce moment, beaucoup.
Voilà. Notamment ça, oui.
J'aimerais revenir au bien commun.
Vas-y.
Tu dis que dans ce fameux livre « Contribue à l'émergence d'une société neuve et vive », que l'expression « bien commun » devient inopérante, et qu'apparaît la notion de « commun », le « commons » en anglais. Tu dis « il ne prétend pas englober a priori un universel, mais est l'expression d'une communauté prenant en charge collectivement la gestion globale une ressource commune. Oula, il y a beaucoup de mots.
Oui, là,
mais la notion de comment, elle est intéressante au regard de la culture aussi ou d'une société.
Les modernes, à partir des Lumières, c'est l'idée de, qu'il y a des valeurs universelles. Et tout, donc le bien commun est devenu se représenter qu'il y a un bien commun universel. Mais ça, c'était très, je dirais, européano-centré, tu vois, anthropocentré. C'est ça qui s'est découvert au fil des, notamment des siècles passés, et puis de plus en plus. En fait, le monde, il est beaucoup plus... Il y a beaucoup de civilisations qui n'ont pas pensé ça du tout. Cette idée qu'il y a un universel qui s'impose à tous, ça, c'est vraiment une idée très européenne, occidentale.
Un peu colonialiste, peut-être.
Alors, qui a donné, effectivement, qui a justifié le colonialisme. C'est-à-dire que, du point de vue... si je prends la Troisième République en France, c'est un peu l'acmé... De cette situation pour les Français. Mais la Troisième République, elle est absolument coloniale. Hein, tu vois. Mais pour le bien du monde. Et l'angle mort de l'esclavagisme qui va avec est...
Pour le bien du monde.
Oui, c'est pour wow. Tu vois, mais c'est ça qui quand tu lis... si tu lis Jules Ferry, par exemple, tu vois, c'est ce qu'il pense et c'est ce qu'il dit, mais il pense très sincèrement. Oui. Et je pense qu'à sa place, j'aurais pensé ça sincèrement aussi. Tu vois.
Tu crois?
Oui, je crois. Je crois qu'on est aussi fait par sa culture et sa civilisation.
Enfin, je crois que l'environnement était tel que...
Il y avait une grande homogénéité de penser ça. Là, le commun était là, si tu veux. Bien sûr que tu peux retrouver des gens qui étaient sur les marges. Alors, peut-être que j'aurais des sommages, j'en sais rien, mais ils ne sont pas nombreux à ce moment-là. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Oui. Parce que vraiment, il faut avoir 100 ou 100, 200 ans d'avance. Hein. Bon, donc c'est... Mais bon, grosso modo, il y a un accord politique au sens de la cité commune de dire ça c'est juste, ça c'est bon, ça c'est beau.
On va aller mettre notre bonne parole chez les autres.
Voilà, bon. Bon, ben ça c'est fini. Voilà, ça c'est fini.
Ben, tant mieux.
Soit.
Le colonialisme. Oui. Tant mieux que ce soit
oui,
fini.
Mais bien sûr, je suis d'accord avec ça.
C'est pas la question, Elisabeth.
Je ne suis pas sur cet angle-là. Oui, bien sûr, Elisabeth. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, mais comment on reconstruit à la fois du commun de fond et en même temps des tas de variétés de communs. Donc le commun de fond, c'est la valeur de fond qui va tous les humains sur la Terre, on va partager. Et ma proposition, c'est prendre soin de la vie.
Ouais, c'est que le commun, ce soit la vie, quoi.
C'est le ce commun, c'est la...
Donc diversifié et mouvant.
Voilà, c'est ça. Mais la forme que ça va prendre, que ça prend, il est extrêmement diversifié.
Moi, j'ai au moins compris un truc. Je comprends. Oui.
Donc avec des Bushmen, avec des Inuits, avec des Chinois, avec des Argentins, on partagera. Oui, je crois qu'on partage déjà. Mais c'est quoi cette vie, quoi ? Prenons-en soin. Déployons-la, nous les humains et tous les vivants. C'est ça que j'observe aujourd'hui. Et on parle de tout ça. La façon dont ça va se passer, ça va être très différent, parce que ce que tu disais dans la phrase tout à l'heure, c'est que ce commun, il faut qu'on le débatte entre nous. Donc il faut qu'on puisse... C'est pas un truc qui tombe, qui devient d'en haut. C'est ça le. C'est comment on va le manifester ça.
Et c'est pas quelque chose comme la normalité. La normalité, c'est un consensus autour de ce qu'on imagine comme.
Alors, c'est quoi ce qui... Alors, ce qui est normal, c'est ce qui conforme à nos croyances, à notre philosophie, tu vois, à notre éthique. C'est ça. Et si j'appelle ça la norme, tu vois bien que chaque situation a une des normes tout à fait différentes les unes des autres. Donc la norme, elle change.
C'est pour ça que je te disais ça. Hein.
Donc la norme,
parce
elle
que
change.
Ça sert aussi le propos. Ça le dessert et ça le sert en même temps.
Voilà. Donc effectivement, si la norme pour les modernes ou pour les hypermodernes, c'est faire croître l'argent, c'est faire croître la quantité, faire croître le nombre, tu vois, ça va ensemble, ça.
En utilisant l'IA, s'il te plaît.
Bah oui, puisque ça fait croître plus vite et plus gros. Donc ça colle, tu vois. Donc ça, oui, ça c'est la vision, effectivement, de la norme, de la modernité, de la post-modernité, on va dire, mais dans la continuité... de cette vision mathématique du réel. Et puis, la norme dans le monde de la vie une, c'est faire croître la vie. Mmh. C'est-à-dire les relations entre tout vivant, la biodiversité, donc à la fois la biologie, la vie et la diversité. Tu vois.
Ça me semble important de dire qu'on n'est pas contre l'argent ou la viabilité économique des entreprises ou de quoi que ce soit de ce type-là. On est bien sur le fait que ça reste, tout ça reste vivant, en fait. Ben, ça serve la vie et pas un profit maximum et toujours plus grand.
Non, l'argent, c'est un moyen pour faire circuler de la relation. Non, mais le but, c'est la relation, c'est pas l'argent. Alors que dans la modernité finissante, c'est l'argent qui est le but.
Voilà, on en revient.
Toujours au même sujet. C'est vrai. Voilà. C'est quand même. Une fois qu'on a vu ça, tout découle quand même de cette vision-là.
Et tu dis que les solidarités émergentes construisent de nouvelles institutions.
Alors, les sociétés, pour tenir assez longtemps, il faut qu'elles aient des institutions.
Oui.
Mais ces institutions, elles reposent sur une philosophie commune, sur des valeurs communes. Alors, quand une situation s'effondre, voilà, part en vrille, ne donne plus les promesses qu'elle était censée donner, bien, ces institutions, comment elles font? Bien, elles continuent, elles, ce pour quoi elles ont été faites.
Elles continuent à produire
le corps des ponts et chaussées, il continue à voir le monde en pont et en chaussée. Comme je dis un peu bêtement, mais c'est quand même ça. Hein.
Je te le dis, tu me perds un peu parce que des ponts et des chaussées, il y en a toujours besoin.
Oui, mais c'est le monde qui est en pont et en chaussée, qui se calcule. C'est le calcul des matériaux, c'est les calculs qui vont avec.
Non, mais c'est bien de le redire parce que je suis sûr que je ne suis pas la seule.
C'est un monde de calcul, tu vois, c'est un monde qui calcule.
Une rationalisation à l'extrême.
À l'extrême, tu vois. Voilà. Mais ça, ce n'est pas compatible avec faire croître la vie. Puisque ça fait même aujourd'hui l'inverse, puisque la biodiversité s'effondre.
Voilà. Le côté extractiviste d'une terre qui est
finie. Ça fait exactement l'inverse.
Le jour du dépassement, etc.
Donc nos institutions qui aujourd'hui peuplent notre espace collectif, ces fondements sont fondés sur cette vision calculatrice du réel. Donc elles ne peuvent pas le faire. Elles ne sont pas disponibles pour prendre soin de la vie.
Même si les gens à l'intérieur ont très envie.
Et c'est pour ça que les gens sont très malheureux.
Ils essayent. Non, mais il y a plein de gens dans ces institutions qui essaient quand même de le faire.
Mais qui n'y arrivent plus. Dont moi, j'ai fait ça. Et j'ai compris que je ne pouvais pas y arriver. Oui. Que la situation était plus forte que moi. Donc je suis parti. Par contre, la nouvelle société qui arrive, bien sûr, elle va se consolider sur des nouvelles institutions qui vont, elles, prendre dans la vocation, les fondements, c'est de prendre soin de la vie et des relations. Donc où est-ce que ça s'invente, ça? Ça ne peut pas s'inventer dans les institutions
à
qui
la
sont
marge.
Dans les marges qui seront demain le centre, c'est-à-dire dans les lieux où nous sommes en relation. Donc, les entreprises, les entredonnes. Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est la qualité des relations entre les humains et tous les vivants. Et les règles qu'on se donne pour prendre soin de ces relations. Donc, on se donne des règles qui vont devenir des normes, qui seront donc instituées et qui sont déjà en train d'être... De grandir, puisqu'on est en train de faire des choses ensemble comme ça.
Donc tu parles d'entreprise, mais on est d'accord?
Oui, je parle d'une communauté humaine qui fait des choses. Tu vois, nous sommes des êtres qui faisons des choses.
Et pas forcément l'organisation entreprise.
Non.
Ça peut aussi.
Alors, l'organisation de ces entredonnes-là sont faites pour qu'effectivement la vie puisse croître dans les différences, dans la diversité. Et donc, ces organisations-là, ces règles qu'on se donne, qui vont petit à petit s'instituer dans toute la société.
Ok, c'est donc ça que le changement de société naît à la marge, parce que tu dis que quand il y a un changement de société, quand il y a une société qui ne fait plus son objet, les institutions continuent à fonctionner à l'identique, mais ça ne marche plus.
Voilà.
Donc du coup, à la marge, il y a autre chose qui se développe,
voilà.
Dans le lien au vivant. Et du coup, ça devient le centre.
Ça deviendra.
Ça va devenir. C'est en train de devenir. J'ai envie d'être optimiste.
C'est tout ça. Mais
c'est la nouvelle société.
Voilà. C'est cette espérance-là.
C'est ce qu'on appelle aussi faire société autrement.
C'est tout à fait ça. Il y a plein de mots pour dire ça. Tu vois.
Et on développe du commun. Et là, ce qui est du commun, de valeurs, en fait, et de fonctionnement.
Alors, on a des valeurs communes qui est prendre soin de la vie.
Okay.
Et ensuite, la façon, je dirais, concrètement manifestée, elle est un peu différente de chacun des groupes. C'est cette variété-là qui est fascinante.
Oui, pour moi, de la différence naît la richesse. Mais
exactement, c'est exactement ça, Elisabeth, qui se passe.
C'est quoi les ressources pour penser cette société ouverte et vive? C'est la relation, du coup?
Oui, c'est la relation, c'est la vie, c'est les affects, c'est les émotions, c'est la beauté, voilà. C'est la matière, c'est la concrétude du monde.
Et il faut que tu nous réexpliques, ou tu expliques aux auditeurs ce que c'est que l'entredonne. Vite fait.
L'entredonne, c'est l'entre-nous, c'est ce qui est entre nous, hein, c'est ce qui se tisse, c'est le tissu qui se fabrique par nos relations, par nos relations, au sens où on fait aussi des choses, enfin nos émotions, mais la fabrique que nous, quand on fait des choses, quoi, très des artefacts, on a besoin, nous les humains, de tas de choses pour pouvoir tenir dans la vie. Donc c'est tout ce tissage-là qui est l'entre nous et l'entre-donne. C'est un jeu de mots par rapport à l'entreprise, hein, entre donner par rapport à entreprendre. Donc c'est pour insister sur le fait de pas accaparer les choses, quoi, mais d'être complètement ouvert à ce qui va arriver et qui va me transformer, hein, en étant l'ouverture et non pas dans la fermeture. C'est plutôt cette idée fondamentalement. Et donc les humains qui se mettent ensemble pour faire des choses pour d'autres, ils sont ouverts à l'autre, à ce qui arrive, à ce qui se passe, quoi. Et donc ils sont à la fois, bien sûr, ils ont des pensées, ils ont des process, mais ces process ils sont secondaires par rapport à la finalité qui est de faire grandir les relations. C'est ça l'entre-donne.
Et quand on est dans une entreprise et que les relations se passent mal, comment on fonctionne, comment on fait?
Soit on peut contribuer à ce qu'elle se repasse bien, et si ça c'est pas possible, on s'en va.
Et du coup, on vient voir son essence et on vient
leur dire. D'ailleurs, vous en avez des personnes comme ça.
Hein. Oui, bien sûr. Énormément, quasiment que ça en fait.
Mais oui.
Et nous, c'est pour nous, c'est important de faire, de savoir comment on peut faire autrement. Voilà, pour contribuer à ça, je crois.
Le autrement, c'est prendre soin de la vie, tu vois. Et dont l'argent devient un moyen précieux, mais pas le but du jeu.
Courant porteur.
C'est quoi passer de l'être à l'autre?
C'est un peu ça, tu vois. C'est le concept de être. Et le concept de autre, si je puis dire un peu pédant ce que je dis, mais dans l'être, il y a une stabilité. Hein. D'ailleurs, le ST du stable, c'est comme le ist en allemand, le stand en anglais, c'est un mot d'origine indo-européenne qui dit ça bouge pas, c'est stable, mais c'est mort, quoi, tu vois. Ben oui, quand ça bouge pas.
Je fais un peu la grimace, hein, pour, il ne le voit pas, vous voyez pas. Mais...
La vie, elle bouge tout le temps, elle fait du neuf tout le temps, c'est du mouvement. L'autre, c'est justement ce qui va me sortir de cette stabilité-là.
Oui, par la friction, par l'expérience.
Par l'ouvert, par l'expérience, par la relation, par tout ça. Par tout ça. Donc c'est ça la dynamique, c'est que la vie, elle me traverse, elle vient d'ailleurs, elle vient de l'ailleurs, de l'autre, de l'autrui, de la vie. J'ai pas décidé de vivre.
Oui, mais cogito ergo sum, je pense donc je suis.
Ça c'est la modernité. Donc je pense, donc je suis, mais où est la matière? Où est la vie là-dedans? Non, elle est dans la pensée.
Je sais pas, Descartes, donné, j'ai faim, dans sa... je vais manger.
Non, mais quand tu dis cogito, j'ai je pense. Donc Descartes, il est dans la pensée, oui, tu vois. Fait. Elle n'est plus, justement.
Non, mais je disais justement, ça revient à du besoin matériel, du besoin humain, et on retourne dans la relation, dans le mouvement.
Exactement. C'est cette attention-là, tu vois, justement. C'est cette altérité-là. Voilà.
L'altérité.
Oui, l'altérité de la... des personnes et de la matière.
Ce que j'aime dans le deuxième ouvrage qu'on a présenté, c'est qu'on est passé au moment du récit. Et alors, pour moi, le récit, c'est comme un conte, en fait, que tu racontes. Mais parler du conte, je crois que ça pose un cadre que tu n'aimes pas trop, en fait. Parce que tu dis que le cadre, c'est fait pour être traversé. La fonction du conte et du récit, c'est quelque chose d'important, je crois.
Nous sommes vraiment, nous, des êtres de langage, nous, les humains particulièrement. Hein. Des êtres fabulateurs, dit la philosophe Isabelle Stengers. On doit se raconter des histoires, on doit s'inventer des raisons d'être là. Et c'est ça ce que font les cultures. On se raconte des histoires, des récits pour justifier ce qui se passe. Sinon, on est perdu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les cultures sont très différentes les unes des autres, apparemment, parce que les récits sont pas les mêmes. De qu'est-ce que c'est que cette réalité-là? Qui suis-je? Où vais-je? C'est quoi le soleil? C'est quoi la lune? Donc il y a des... Alors les modernes, ils ont un récit qui s'appelle la science, qui me racontent le Big Bang, par exemple. Moi, j'étais pas au Big Bang, hein, mais je vais bien le croire, hein, tu vois, comme toi.
Bah, oui.
Mais si j'étais inuit, on me raconte une autre histoire auquel je croirais aussi bien. On est fabriqué comme ça, hein, parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là, fondamentalement. On ne sait pas ce que c'est que le réel. On tourne autour. Mais une société doit stabiliser un petit peu les choses, tu vois, dans des institutions.
Oui, mieux.
Tu vois, sinon, ça ne tient pas longtemps. C'est la guerre. Mmh. Et donc, cette stabilisation, elle est sur des croyances communes, des récits communs. Et ce qui est délicat, c'est quand une situation s'effiloche et que le récit, on y croit de moins en moins. Et même là, si le récit commun se casse la figure, ben, ce qui relie les hommes entre eux, le commun se casse la figure. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est une façon de penser les choses. Mais à la fois, il y a un récit qui est en train de s'effondrer, mais un nouveau qui est en train d'apparaître. Et plus vite le nouveau apparaîtra, commun, autour de se prendre soin de la vie, hein, plus vite les violences cesseront. Et c'est bien ça notre enjeu aujourd'hui. C'est de prendre conscience qu'on est dans la fin d'un monde et la naissance d'un nouveau. Et que ces deux mondes sont incompatibles. Les récits ne sont pas les mêmes. Les institutions ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est là où il y a... Il y a un saut à faire, quoi, et c'est difficile.
C'est pour ça que la méthode du récit de vie est aussi une méthode formidable pour permettre à une personne de faire des bascules. Et quand on perd un job, quand on se fait licencier ou quand on vit une rupture comme ça, on dit qu'on a besoin de faire le deuil. C'est-à-dire qu'on a besoin de changer le récit qu'on se dit par rapport à ça. Et que ça permet justement la résilience, le retour à un état viable, ou voire meilleur. Donc on utilise beaucoup, en tout cas, dans une des étapes, il y a cette méthode du récit de vie qu'on utilise, et qu'on trouve hyper précieux, également pour réunifier les parts des gens. Parce que, comme tu le dis, les choses sont assez scindées, assez normées, assez rationnelles. Et quand on parle de récit, souvent les gens, ils nous racontent leur parcours professionnel. Or, on n'est pas que du professionnel, on est aussi du personnel, on est aussi du spirituel, peut-être un cultivateur avec son jardin, on a des passions. Et tout ça, en fait, c'est comme si ça devait être scindé, alors que ça ne l'est pas. Mmh. Et donc, cette méthode du récit permet, à titre individuel, et je crois que ça contribue à créer un nouveau récit de société, ça permet de réunifier la personne, de la réunir dans quelque chose d'entier, et qui permet d'avancer.
C'est très juste. Et donc, ce que vit une personne dans ce récit de vie, c'est aussi vrai pour les sociétés, les civilisations.
Et je crois que chacun, pour arriver dans cette complexité que tu dis, a changé de civilisation. Parce que, comme tu l'as dit aussi, la civilisation, la nouvelle, elle naît à la marge.
Oui.
Et là, je reviens à ma définition de la santé que j'aime bien. Parce que la santé de l'OMS, elle dit aussi la santé sociale.
Oui.
Alors, la santé sociale, c'est quand tu es bien intégré. Or, quand on est dans un changement de société ou qu'on a envie d'un changement de société, on change son propre récit, mais on se met à la marge. Mais du coup, on n'est plus en santé sociale. Donc, comment on fait? Et voilà, il faut beaucoup bascule.
Oui, alors, effectivement. Alors, dans les marges, il y a du monde quand même aujourd'hui.
Je suis d'accord.
Tu vois, et donc, on n'est pas tout seul. Il y a eu des pionniers. Je pense qu'on sort petit à petit de l'ère des pionniers. On n'est pas nombreux encore. On n'est pas encore très nombreux.
Alors, tu connais les créatifs culturels?
Ben voilà, c'est un peu
cette étude, elle est trop bien.
Bon, par exemple, toi,
on était déjà 35% il y a 10 ans.
Bon, il y a pas mal de signes qui disent ça. Après, c'est qu'il faut voir dans son entourage comment ça se passe, parce que parfois dans sa famille, on est un peu isolé quand même quand on commence à basculer. Chaque fois, c'est différent. Mais il commence à y avoir un peu de monde, donc ces marges commencent à devenir. Voilà, il y a du monde, hein. Et donc il y a de l'intelligence qui s'est développée là. Il y a des échanges, il y a de l'entraide. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Et vous, à son essence, vous contribuez vraiment à ça, à consolider ces entraides, à ces relations pour dire, allez, on y va, vas-y, ton récit là, t'es à la pointe de toi, allez, vas-y, vas-y, continue. Ça va le faire, quoi. Mmh. Et je reviens sur l'exemple de Lucille. Voilà, c'est en train de le faire, quoi. Et puis son désir, dans 5 ans, on sera plus... Bon, là, ça y est, elle a basculé, Lucille. Et puis elle en trouve d'autres qui sont... Enfin, qui sont comme ça. Donc c'est comme ça qu'une nouvelle dynamique se met en route. Et donc se raconter ces histoires-là et s'en réjouir, tu vois. Ah ouais, qu'est-ce que c'est chouette, quoi. Tu disais, c'est magnifique. Ben oui, allez, c'est effectivement magnifique, tu vois.
Allez, et tu sais quoi? C'est pile le moment de la fin. Tu viens de reboucler sur Lucille et on arrive à la fin de l'émission. Merci. Je trouve ça quand même assez top. Merci beaucoup, Olivier.
Merci,
on retrouve
Elisabeth.
Toutes tes informations dans la page de l'émission. Au revoir, Benjamin.
Au revoir. Merci, Olivier. Merci, Elisabeth.
Merci, Benjamin.
À tout bientôt pour une nouvelle émission. Vous venez d'écouter Courant Porteur, initiative et résilience d'un territoire.
Une émission mensuelle pour faire émerger un mieux vivre ensemble résilient dans le Val-de-Saône. Vous pouvez retrouver l'émission et ses références sur radio-calade.fr.
Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site saonescence.fr. SAONE2SENCE.